Passe croisée, c'est le magazine du rugby en Orisère et c'est sur Couleur FM. Bonjour et bienvenue dans Passe croisée, c'est déjà le numéro 7 et c'est bien sûr toujours sur Couleur FM. Avec tout d'abord bien sûr un retour sur la victoire du CSBJ face au leader invaincu de la Fédérale 1 Elite, le SO Chambéry. Les Chambériens qui restaient sur 5 victoires consécutives en 5 matchs et qui voulaient poursuivre sur leur lancée dans un stade de Pierre Rajon bien garni, puisque pour une fois, près de 3500 personnes avaient trouvé place dans l'enceinte berjalienne pour cette soirée de gala. Avec notamment bien sûr de nombreux supporters savoyards qui avaient fait le très court déplacement par la 43. Alors avant de revenir sur cette rencontre, qui était un petit peu le choc de cette journée de Fédérale 1 Elite, nous allons nous faire un petit plaisir et vous faire un petit plaisir en écoutant pendant quelques secondes l'ambiance à Rajon vendredi soir, c'était juste après le match, une ambiance qui nous a rappelé des souvenirs finalement pas si lointains. Quant au match en lui-même, les Berjaliens l'ont attaqué tambour battant, au pied au plancher, en inscrivant très rapidement deux essais par leur excellent centre fidjien Tabou Alevou, aux 5e et 13e minutes, et comme Maxime Javot transformait ces deux essais, il permettait assez rapidement à son équipe de mener sur le score de 14-0 après seulement un quart d'heure de jeu. Mais la machine savoyarde s'est ensuite mise en marche face à des Berjaliens bien décidés à défendre leur avance, mais cette avance, malgré leur vaillance en défense, commençait à fondre comme neige au soleil. Ils ont même joué dans les 10 dernières minutes de ce match à 13 contre 15, après les deux cartons jaunes infligés par monsieur l'arbitre au talonneur sud-africain Bunzenhout et également aux deuxième lignes Tavili. Après 8 minutes d'arrêt de jeu, les supporters retenaient leur souffle, une succession de mêlées à 5 mètres de l'embut berjalien, avant le coup de sifflet final libérateur de monsieur Rouquier, l'arbitre de la rencontre, qui libérait donc le stade. Les réactions d'après-match traduisaient d'ailleurs cette tension. L'un des magazines de rugby que lisent les fidèles de ce sport titrait d'ailleurs ce matin le CSBJ le miracle permanent. Un bon résumé de cette rencontre. On écoute donc après ce match les réactions de Jean-Henri Tubert, l'entraîneur berjalien, de Maxime Javot, l'ouvreur Ciel et Grenat autour de 12 points précieux au pied, et de Rémi Bouet, l'ailier des Ciel et Grenat. Le tout dans une ambiance que vous entendrez derrière les interviews, une ambiance euphorique d'après-victoire, une victoire vraiment à l'arraché.
Vous avez rentré à 13 contre 15 et que ça n'allait pas être évident, surtout face à Chambéry.
Alors a dit tout simplement qu'ils appliquent ce qu'ils font à l'entraînement depuis le début de l'année, qu'ils appliquent ce qu'ils ont fait contre Aix et contre Romain, une solidarité de tous les instants, et qu'ils soient capables de rester ensemble et de travailler ensemble. Et s'il y en a un qui craque, le copain à côté vient l'aider, tout simplement.
Merci beaucoup.
De rien.
Maxime, bravo. Mais pour les supporters, il faut éviter de nous faire ce genre de coups tous les matchs, parce que ça va être un petit peu compliqué. On a souffert un super début, et puis après, ils sont revenus.
Ouais, mais même nous on a eu peur. On a cru que l'arbitre allait peut-être nous l'enlever. Bon, au final on a su la conserver. On a joué à 13, ensuite à 14, encore à 14. On a fait au moins 20 minutes à 14, ça a été compliqué. Dur de récupérer des points quand tu joues plus trop parce que t'es un peu moins sur le terrain. Mais bon, voilà, c'est quand même. Elle est belle, il y avait du monde ce soir. C'est le leader. Voilà, tout est beau, ça finit bien.
Vous démarrez super bien avec ces deux essais et après ils reviennent un petit peu dans la partie et on sent que vous êtes un petit peu moins bien, des petites fautes. Comment ça s'explique? C'est eux qui ont remis beaucoup de pression?
Bah, c'est surtout qu'on prend deux cartons coup sur coup, donc on joue à 13. Après, partant de ce principe là, on joue le leader à 13, voilà, c'est compliqué de jouer, on peut pas s'exposer non plus. Voilà, donc on a essayé de faire ce qu'il fallait. Bon, ça nous a souri, c'est pas sûr que ça nous sourise dans le futur, mais bon, là, à 13 contre 15, c'est compliqué.
Et quand il y a les dernières mêlées et l'arbitre qui siffle pas, qui fait jouer quasiment 8 minutes d'arrêt de jeu, il se passe quoi dans la tête? On pense uniquement à défendre, à résister?
Ben, on se dit qu'il y a bien une fois où il va nous la siffler pour nous. Après, au final, qu'il les fasse repère pendant 8 minutes, c'est bien, tant qu'on est à 14, ça nous fait du bien.
Donc maintenant, c'est 4 points qui font du bien aussi au classement, parce que du coup, vous repositionnez un peu dans la partie haute.
Ouais, ça corrige notre revers qu'on a subi à Strasbourg. Elle nous fait du bien, comme vous dites. Voilà, je sais pas si on remonte ou si on reste dans le milieu, mais en tout cas, on reste invaincu chez nous, on prend nos 4 points, et puis voilà, c'est l'essentiel.
En tout cas, bravo et merci beaucoup.
C'est gentil, merci à vous.
Alors, un gros match à Rajon, un match difficile sur la fin. Vous avez fait un petit peu peur aux supporters. Comment vous l'avez vécu ? Belle entame, la prise du score assez rapidement, et puis Chambéry qui remet la machine en route et qui revient petit à petit dans le match.
Ouais, je crois que c'est une spécialité à Bourgoin de se mettre un peu dans la merde, on va dire, à la fin. On gère bien le début de match, et puis après, on dirait qu'on rentre dans une routine. Du coup, bah, ils sont pas loin, et heureusement, 2-3 fois, ça se goupille vraiment bien pour nous. Parce que sinon, ça aurait pu mal se tourner. Mais après, on reste solidaire et à la fin, on gagne.
À l'issue de ce match, ben Chambéry reste leader de cette fédérale 1 élite, mais les Berjaliens, eux, remontent à la 5e place du classement. Alors après ces belles émotions, on va partager une petite pause musicale bien méritée. Et c'est avec Evangeline et My Kingdom que nous allons la partager. Allez, c'est reparti pour la seconde mi-temps de passe croisée. Il n'y avait pas de fédéral 1 pour le CS Vienne le week-end dernier, donc les Viennois étaient au repos avant de reprendre le chemin des pelouses la semaine prochaine. Les Viennois qui, on le rappelle, sont 8e de la poule 4 de Fédéral 1. On jouait par contre en Fédéral 2, où vous savez que nous suivons l'équipe de Saint-Savin, une équipe de Saint-Savin boostée par sa victoire acquise le week-end précédent du côté de Montmélian en Savoie et qui voulait poursuivre leur remontée au classement. Les jaunes et noirs avaient plutôt bien démarré puisqu'ils menaient en effet 11-10 à la mi-temps, mais ils se sont ensuite lourdement inclinés face à une équipe de Rumilly plus maîtresse de son rugby sur le score sans appel de 29-10. Saint-Savin est désormais 7e de cette poule 3 de Fédéral 2. Nous avions également toutes les équipes de Fédéral 3 du Nord-Isère qui étaient engagées le week-end dernier. On commence bien sûr par l'AS Mida, l'association sportive qui regroupe à la fois Saint-Marcel-Bel-Accueil et l'île d'Abo. Une équipe de l'AS Mida qui était invaincue avant ce match, avant le week-end dernier, avec un déplacement du côté d'Iso. Et avant ce match, justement, nous avons abordé l'excellent début de saison de l'AS Mida avec Bernard Potet, son vice-président, mais également le déplacement à Iso. Et vous allez voir que Bernard Potet, il se méfie un petit peu de ce déplacement. Il l'évoque pour Couleur FM.
Bonjour Bernard Potet, vice-président de l'AS Mida. Un petit point avec vous sur le début de saison merveilleux de votre équipe. 4 matchs, 4 victoires. C'est parfait.
C'est, on va dire, presque parfait. Disons, même, on a eu quelques difficultés sur certaines rencontres, mais on a quand même gagné. Et pour considérer la toute dernière avec le point bonus en plus, 40-12 face à Rhône 15, c'était une belle rencontre sous un beau soleil. On a bien joué, 2 matchs à l'extérieur donc avec 2 victoires, 2 matchs à la maison avec aussi 2 victoires. Et demain, plutôt dimanche 22, on sera à Iso. Et là, on ne sait pas. Parce que ils sont 4e au classement, nous on est 2e, ils sont à 3 points de nous. C'est léger, mais on ne sait jamais.
Alors est-ce que quand on commence comme ça, les ambitions qui étaient quand même assez fortes en début de saison, elles sont du coup complètement confirmées ?
Ah, totalement, oui, totalement. J'ai encore discuté avec l'entraîneur pas plus tôt tard que ce matin, et il m'a dit ben on surfe sur la vague des victoires et il faut que les gars quand même continuent avec leur dynamisme qu'ils ont actuellement à se maintenir et puis ne pas se remettre en question, mais continuer à produire le jeu de la SMIDA.
En tout cas, merci Bernard et bonne chance pour le match à Iso.
Merci, j'y serai. Il n'y a pas de souci.
On s'en doutait un petit peu.
Allez, bonsoir.
Et il avait bien raison, Bernard Potet, de se méfier de ce déplacement, car l'AS Mida s'est en effet incliné dans la région voironnaise, donc à Iso, sur le score de 34-24. Alors Iso devient 3e et devance justement l'AS Mida qui recule à la 4e place. Nous avions un autre match à suivre en Fédéral 3 en Nord-Isère. C'était le derby qui opposait Saint-Jean-de-Bournay à l'équipe des Vallons de la Tour. Un match un petit peu de la peur, puisque les deux équipes étaient assez mal classées. Et bien, c'est finalement Saint-Jean-de-Bournay qui s'est imposé à domicile sur le score de 25-19. Les Vallons de la Tour prennent néanmoins le point de bonus défensif et c'est important pour eux qui ne comptent pas beaucoup de points. Les Saint-Jeanais, eux, se donnent un petit peu d'air. Ils remontent à la 7e place de cette poule 5. Les Vallons de la Tour, eux, sont désormais 10e dans une poule qui ne compte que 12 équipes. Ça sent un petit peu la fin de classement pour cette équipe de la Tour du Pin. Et on espère qu'ils sauront se ressaisir le week-end prochain. Eh bien justement, on va enchaîner sur les matchs qui nous attendent le week-end prochain. Alors le CSBJ, fort de cette victoire sur le leader chambérien, se rendra pour un nouveau long déplacement du côté de Limoges. On rappelle que les fidèles du COP Bergusia 16 ont réussi à cette occasion à remplir un minibus pour encourager le 15 bergalien. On va les saluer parce qu'ils arrivent régulièrement, même sur les déplacements lointains, à organiser et à emmener quelques supporters. Ils sont plutôt partis pour faire tous les déplacements, peut-être à l'exception de Tarbes, qui sera le déplacement le plus lointain pour les bergaliens. En Fédéral 1, on vous l'a dit, le CS Vienne, qui était au repos le week-end dernier, revient sur les pelouses de son stade Etcheverry. Ce sera dimanche à 15h et ce sera contre le voisin Villeurbanne de l'Asvel. En Fédéral 2, eh bien Saint-Savin, après son échec à domicile, fera le court déplacement dans la banlieue lyonnaise également, puisque les Saint-Savinois sont attendus là encore dimanche à 15h du côté de Mézieux. On vous rappelle que la vraie bonne date pour les supporters de Saint-Savin, ce sera le samedi 4 novembre, où les Jaunes et Noirs recevront Vinay, très très forte équipe de cette Fédérale 2, et ce sera au stade Pierre Rajon avec notamment le retour de Jean-François Coux, ailier bergalien mais qui est aujourd'hui du côté de Romans et qui est surtout l'entraîneur de Vinay. On aura également un nouveau derby en poule 5 de cette Fédérale 3, puisque l'AS Mida tentera de relancer la machine après sa défaite donc à Iso à domicile. Ce sera face à Saint-Jean-de-Bournay. Et de leur côté, les Vallons de la Tour ont une occasion de récupérer quelques points importants dans l'optique du maintien. Et ces points, ils tenteront de les glaner face à la lanterne rouge de la poule, qui est l'équipe de Cessin. Comme d'habitude, on va terminer avec le livre de la semaine et nous avons choisi cette semaine sur Couleur FM de préparer finalement les tests de novembre qui attendent l'équipe de France avec notamment deux matchs face aux Néo-Zélandais et notamment celui qu'on attend tous dans la région, celui qui aura lieu au Parc OEL le 14 novembre prochain. Alors le livre de la semaine, il est signé Yann Borthwick, qui est un journaliste sud-africain fou de rugby, qui a écrit de nombreux ouvrages sur la question. Et celui dont on vous parle aujourd'hui s'intitule « All Black au cœur de la magie noire ». C'est finalement un regard sur la manière dont les petits Néo-Zélandais apprennent le rugby au pays donc du long nuage blanc. Et également un retour sur l'histoire du rugby dans ce pays. Les Blacks, les Néo-Zélandais qui insistent beaucoup sur la notion de jeu avec le ballon. Peu de contact en tout cas au début dans les écoles de rugby et quatre commandements principaux qui sont toujours respectés. Attraper, il s'agit bien évidemment du ballon. Passer, courir et esquiver. Le combat, comme on vous le disait, n'arrive que dans un deuxième temps. À partir de 12-13 ans, c'est là que les petits Blacks apprennent à plaquer. De quoi finalement alimenter le débat que nous avions déjà initié la semaine dernière avec Grégory Pouillot sur l'évolution du rugby français vers beaucoup de physique et beaucoup de contact, alors qu'en fait d'autres équipes essayent de privilégier effectivement la culture du jeu, ce que nous avions jadis avec le French Flair. Et donc pour terminer, eh bien nous allons continuer avec les Néo-Zélandais qui donc arriveront en novembre, même s'ils ont perdu contre l'Australie ce week-end dans le Four Nations. Il reste effectivement l'équipe référence du rugby mondial. Et à leur propos, Serge Blanco, grand arrière français, mais également du Biarritz Olympique, avait eu cette phrase assez magique. « Les Blacks, c'est la magie du rugby. Les années passent, les décennies passent, mais les Blacks sont toujours magiques. » Voilà, c'est terminé pour Passe Croisée, que vous retrouvez évidemment toutes les semaines. C'est le mardi 20h. Et pour ceux qui auraient raté la première édition, eh bien, vous pouvez nous retrouver également le vendredi à partir de 16h. On se retrouve avec plein d'infos et plein de nouvelles dès la semaine prochaine. Et c'est toujours Passe Croisée et c'est toujours sur Couleur FM. Passe Croisée, c'est le magazine du rugby en Orisère et c'est sur Couleur FM.